Expression.
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 Pluriel. Pluriel.
Expression plurielle.
Expression plurielle.
Cette semaine, je vous propose de vous présenter une séquence d'ateliers que j'ai menée à l'école des Oliviers à Aubenas auprès des enfants de CE1, CE2. Alors, un axe du projet Expression plurielle, c'est la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et dans ce cadre, je me suis penchée sur la question du sexisme pour réfléchir avec les enfants sur les inégalités provoquées par nos constructions de genre. Par construction de genre, je veux dire le fait d'être perçu et ou de se percevoir comme une fille ou comme un garçon, avec toutes les attentes sociales qui vont avec.
On m'a dit que j'étais un garçon.
C'est vrai.
On m'a dit que pour être un garçon,
il fallait
taper, taper, taper sur les filles et sur les ballons, ballons, ouais. Taper, taper l'incruste, mais pas la discussion, jamais. Taper des poings sur la table et sur les fils de pion, ouais. Montrer mes poils de jambes, mais pas mes émotions, jamais. Briller, briller dans la fête et la compétition, ouais. Briller, briller dans la tête et dans les opinions.
Je te raconte comment chaque fois j'affronte ou dois tenir tête et souvent à coups de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusillent des yeux la façon dont je m'habille, me demandent si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille.
On parle de construction de genre et pour réfléchir à ces questions, on a mobilisé plusieurs outils issus de l'éducation populaire, des outils de réflexion et de dialogue qui mettent la parole au cœur du processus et donc qui s'articulent bien avec la radio parce que ce sont avant tout des ateliers radio. L'école des Oliviers, elle est dotée d'un studio satellite de la radio Info-RC, une radio en milieu scolaire qui se veut espace de débat et de construction pour les jeunes. Et cette place de la radio dans ces ateliers contre le sexisme, elle m'a posé pas mal de questions. Notamment, qu'est-ce que ça crée de rendre une parole publique? Et comment la diffusion d'une parole peut participer à la figer? Alors même que dans ces ateliers d'éduc pop, la parole elle est surtout pensée comme un moyen pour mettre en mouvement la pensée et pour faire bouger nos préjugés. Et en fait, ça pose la question de la fonction de la parole dans ces ateliers. Est-ce qu'on l'utilise pour réfléchir ensemble et déconstruire nos préjugés? Ou alors est-ce qu'on l'utilise pour faire passer un message aux auditeurs et aux auditrices? D'autant plus que ces outils, je les ai découverts à travers des observations que j'ai faites auprès de l'association Régalons-nous, notamment, qui est une association d'éducation populaire qui lutte contre le sexisme, ou encore des observations de séances menées par le planning familial. Et dans ces séances, l'un des éléments clés qui est posé dès le début par les intervenantes, c'est la confidentialité. Et c'est un élément hyper important pour créer un cadre sécurisant. Et donc ces questions de diffusion de la parole, on les a tout de suite abordées avec les enfants. Et on s'est dit que ça dépendait peut-être des activités et que pour la suite, ce serait intéressant que ces ateliers soient le point de départ de création radiophonique ensuite pour les enfants. Ça, ce sera l'étape d'après. En tout cas, c'est vrai que ne pas avoir le point de départ de la confidentialité, ça changeait beaucoup de choses. Et ça va nous faire entrer dans le vif du sujet. Alors pour commencer, en activité d'ouverture, dans l'éducation populaire, on parle de brise-glace. Ce sont des activités qui visent à mettre le corps en mouvement, créer une cohésion de groupe et briser la glace. Donc c'est souvent sous forme de jeu. Et là, je propose un jeu que j'appelle le jeu des paquets. C'est un jeu où on marche dans l'espace, dans la pièce, et ensuite on est invité à se rassembler selon des choses que l'on a en commun. Donc par exemple, je vais dire toutes les personnes qui ont des lacets se rassemblent et toutes les personnes qui ont des scratchs se rassemblent. Ou encore toutes les personnes qui se représentent comme étant des filles peuvent se mettre ensemble et toutes les personnes qui se représentent comme étant des garçons peuvent se mettre ensemble. Et il peut y avoir aussi un troisième groupe de personnes qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Ou encore toutes les personnes qui ont les cheveux longs vont pouvoir se mettre ensemble et les personnes qui ont les cheveux courts vont pouvoir se mettre ensemble. Et en fait, c'est un jeu qui est hyper intéressant, d'abord parce que ça permet de voir ce qu'on a en commun et de voir qu'on appartient à plusieurs groupes et du coup le sentiment d'appartenance qui peut parfois être difficile quand on lance des activités, on peut avoir des sentiments d'exclusion de la part des enfants mais même des adultes et donc là ça permet d'aller à l'encontre de ce sentiment, de montrer en fait qu'on a des liens avec toutes les personnes du groupe qui sont plus ou moins anecdotiques mais qui parfois peuvent être importants même dans l'anecdote. Et c'est aussi l'occasion de parler d'autodétermination. Alors par autodétermination, j'entends le fait que c'est nous qui choisissons comment on se définit. Donc si par exemple j'ai les cheveux mi-longs, pour les autres ça peut être long, mais moi je me représente comme allant avec le groupe des cheveux courts, eh bien c'est moi qui décide. Comme par exemple il y a des enfants qui ont des lacets et des scratchs, eh bien dans ce cas-là je peux décider d'aller soit dans le groupe des lacets et des scratchs, et j'insiste bien sur le fait que c'est l'enfant qui est concerné, qui décide l'endroit où il veut être, et c'est pas aux autres de venir décider à l'endroit où il doit être. Donc ça pose la question aussi du regard des autres et de comment on se définit, et ça permet d'insister sur ça, sur c'est nous qui choisissons qui on est. Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep, nothing to do but less, nothing to want but peace, nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight, nothing to make but night, nothing to hate but life, nothing to want but more, nothing to take but time, nothing to prove. Et ensuite, on rentre davantage dans le contenu réellement de l'atelier avec un débat mouvant. Alors c'est vraiment une activité d'ouverture aussi, parce que je pense que c'est une bonne manière de mettre en lumière nos représentations pour pouvoir ensuite les mettre au travail. En fait, c'est un outil pour faire émerger et pour nommer les représentations existantes. Donc je dis outil d'ouverture au sens où c'est un outil du début du module, puisque c'est un module qui va se déployer sur 5 séances. Donc en première séance, le débat mouvant, c'est une belle activité. C'est quoi un débat mouvant, plus concrètement ?
Un débat ?
Des questions que t'as dit pas d'accord ou d'accord. On peut bouger aussi. On a le droit de bouger. Pour qu'on bouge, on dit qu'on est d'accord ou pas d'accord.
On a le droit de bouger, c'est le plus important dans un débat mouvant, bouger physiquement, se déplacer et aussi bouger dans la pensée, c'est-à-dire changer d'avis. Donc voilà comment ça se passe, je dis une phrase qui fait polémique et les enfants sont invités à se positionner, un côté pour le d'accord, un côté pour le pas d'accord. C'est matérialisé dans l'espace par une ligne au centre de la pièce et par deux panneaux que j'affiche avec écrit d'un côté d'accord et de l'autre pas d'accord. Et ensuite, chacun, chacune peut donner ses arguments, expliquer pourquoi elle s'est positionnée à cet endroit. Et on a le droit de bouger, ça veut dire qu'en écoutant la parole des autres, on peut changer d'avis et se déplacer dans l'espace. C'est un bon moyen pour faire participer tout le monde, même ceux et celles qui sont le plus en difficulté avec la parole, puisqu'on fait parler les corps. Et ça montre aussi comment on se met en mouvement. Les corps et les pensées bougent, se déplacent. On n'est pas figé, on peut changer, faire des erreurs, errer entre le d'accord et le pas d'accord. L'errance est possible, elle est même encouragée. Et le choix des phrases pour les débats mouvants, il est très important. Il faut des phrases avec lesquelles c'est difficile d'être complètement d'accord ou pas d'accord, que l'on soit enfant ou adulte. Hein. Quand c'est difficile de trancher, c'est là que le débat advient. Les garçons et les filles, c'est pareil, d'accord ou pas d'accord.
Ah, j'ai compris, je croyais que c'était...
D'accord ou pas d'accord.
Les garçons et les filles sont, peuvent être pareils parce que, par exemple, si j'ai le même jouet que l'autre, bah, c'est pareil. De toute façon... Par exemple, j'ai la même guitare que l'autre, les mêmes dessins, les mêmes habits, les mêmes journaux, les mêmes baskets.
Moi, je suis pas d'accord parce que si on n'a pas les mêmes vêtements...
C'est quoi les différences de vêtements ?
On sait pas.
les garçons sont moins sensibles que les filles. D'accord ou pas d'accord?
On peut être sensible parce que des fois, quand un de nos copains il nous prend quelque chose, on peut pleurer, on peut être en colère, on peut être joyeux, on peut être plein de choses.
C'est très intéressant ce qu'amène Afsa ici sur la question de la sensibilité. Elle fait tout de suite le lien entre sensibilité et émotion et elle montre combien le panel des émotions est varié. Et ça me marque parce que c'est aussi un des aspects que je travaille beaucoup avec elle pendant ces ateliers, avec des météos de début et de fin pour dire comment on se sent, comment on s'est senti pendant l'atelier. Pour ça, je me sers du jeu Le langage des émotions qui est créé par la FCPPF, la Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial. Ce jeu, il est très efficace pour agrandir notre lexique partagé et apporter le plus de nuances possible dans la description des émotions. On parle de lexique verbal en français, mais aussi dans d'autres langues parlées par les enfants à la maison. Les autres langues, elles sont pas présentes dans le jeu, mais c'est l'occasion de rebondir et d'aller tirer les fils. Et d'autre part, lexique non-verbal, parce que les cartes présentent aussi des images. Elles sont le point de départ de jeux de mimes, de statues, pour voir comment l'émotion peut s'exprimer dans le corps, les gestes, les postures et les expressions du visage. Donc ça, ce sont des activités brise-glace ou météo-bilan que je mène en début et en fin de séance. Et ce travail sur les émotions, il me semble vraiment essentiel, parce qu'on brasse des questions qui sont intimes, et quand on parle d'inégalité et d'injustice, c'est souvent très fort pour les enfants, ça crée des réactions, des émotions très fortes, et il faut penser dans le dispositif à comment on accueille et comment on accompagne les émotions qu'il peut provoquer. Et d'autre part, cette exploration des émotions, elle est aussi essentielle, parce que les émotions, elles sont au cœur de nos constructions de genre, puisque une étude franco-britannique publiée dans Eureka Alert et BMC Psychologie montre que lorsqu'on fait écouter des pleurs de nouveau-nés à des personnes, si on leur donne l'info que le nouveau-né est une fille, et elles vont majoritairement dire que l'enfant est triste, et au contraire, si pour les mêmes sons, les mêmes pleurs, on donne l'info que l'enfant est un garçon, le groupe va dire plutôt que l'enfant est en colère et a besoin de quelque chose. Depuis qu'on est enfant, à peine né et même avant, nos comportements sont interprétés en fonction de notre genre et c'est à partir de ces représentations qu'on construit nos identités. Et donc, la phrase que je mets en débat, « les garçons sont moins sensibles que les filles », c'est ça qu'elle vient interroger. Le fait que dès le plus jeune âge, on n'est pas encouragé et même autorisé à exprimer les mêmes émotions selon que l'on est une fille ou un garçon. Et ce qui est génial dans la réponse d'Afsa, c'est qu'elle comprend le mot sensibilité au sens large, avec tout un panel d'émotions que je n'avais pas anticipé. Et c'est intéressant de voir quand on parle de la sensibilité des garçons, que c'est quand même tout de suite la notion de colère qui revient et qui apparaît.
On peut pleurer, on peut être en colère, on peut être joyeux, on peut être plein de choses. Ben les garçons, ils sont très sensibles.
Pas d'accord.
Tu peux expliquer pourquoi ?
Je sais pas.
Parce que les garçons, ils sont très en colère contre les filles.
Ouais, les garçons, ils sont en colère contre les filles. On demande aux les filles, est-ce qu'on peut jouer ? S'ils disent non, bah on joue ailleurs. S'ils disent oui, bah on peut jouer avec eux. Bah les filles ou les garçons, est-ce qu'ils peuvent jouer tous ensemble ou pas tous ensemble ?
Ah, c'est une bonne question ça. Les filles et les garçons peuvent jouer ensemble, d'accord ou pas d'accord ?
Si on le demande gentiment, bah, il nous laissera. Et si on donne méchamment, bah, il nous dira non.
Et même si on insiste, bah, ils disent non.
C'est l'occasion d'affiner la notion de consentement et de rappeler que, bien sûr, la manière dont on demande peut avoir un impact sur la réponse, mais qu'il peut y avoir aussi plein d'autres raisons qui dépendent pas de la manière dont on demande et qui nous poussent à dire non. Et parfois, on nous demande quelque chose gentiment, mais on a envie de dire non et on a le droit de dire non, quelle que soit la manière dont on nous a demandé. Et ça, c'était un petit rappel que j'ai fait avec les enfants. Et ce que j'ai trouvé en tout cas intéressant dans ces échanges, c'est que la notion de consentement, elle est venue directement d'elle, à partir de l'évocation des émotions et aussi en lien avec le thème de l'opposition entre les filles et les garçons. Alors ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans ces ateliers et qui a pu me mettre en difficulté. C'est l'opposition qui pouvait s'exprimer entre les filles et les garçons. C'était souvent important pour LE d'exprimer que le groupe auquel ils s'identifiaient, donc filles ou garçons, était celui qui était le meilleur, qui avait le plus de valeur. Et ce qui revenait beaucoup aussi, c'était le fait de vouloir contredire les enfants de l'autre genre, de l'autre groupe, comme si le débat mouvant d'accord, pas d'accord, il recréait l'opposition binaire fille-garçon. Et on l'a vu tout à l'heure, ça a amené à se demander si les filles et les garçons pouvaient jouer ensemble.
Justement, les garçons, les jeux, c'est pour les garçons et les filles.
Quels jeux sont pour les garçons et les filles?
Ben, l'épervier, cache-cache.
Ou 1, 2, 3 soleil. Ou à jouer à l'eau glacée, à l'eau touche-touche. Et même au foot, au basket. On peut jouer avec les copains aussi. Et les copines aussi.
Ça vous fait rire? Pourquoi ça vous fait rire?
C'est pas moi, il fait une voix de fille.
Bon, la réponse est catégorique. On peut jouer ensemble. Il y a plein de jeux qu'on peut faire ensemble. La liste est longue. Ça fait toujours plaisir de l'entendre et c'est essentiel de se le rappeler. C'est quand même difficile de le dire sans une note d'humour. Et ça me questionne aussi de savoir pourquoi c'est ridicule et amusant de faire une voix de fille et pourquoi à cet endroit-là c'est nécessaire d'utiliser une voix de fille pour le dire. En tout cas, ça nous amène à une des dernières phrases du débat mouvant.
Les filles ont besoin d'être protégées, d'accord ou pas d'accord?
Ben, parce que les garçons, les amis, les copains, on a le droit de nous protéger, même des filles, on a le droit de nous protéger. Quand il y a un ballon qui vient, on lui dit « ça va, j'ai pas fait exprès ». Et après on dit « ça va, tu t'es pas fait mal ». Après on part prendre un glaçon pour mettre sur sa tête, quelque part où qu'on a mal.
Un ballon, s'il vient sur un fille, je m'approche et je pose les mains à côté de ma tête et je jette à côté. Comme ça, les filles sont protégées.
Est-ce que tu penses que les filles ont plus besoin d'être protégées que les garçons?
Oui, parce que y en a qui sont petites, il y en a qui sont moyens, grands. Après, ils sont grands et peut-être ils ont peur des ballons. Donc, il y a des garçons qui nous protègent. On met la main sur nos têtes, comme ça, ça vient pas.
Du coup, c'est les filles qui vous protègent ou c'est les garçons?
C'est les garçons.
Et les garçons, ils ont besoin d'être protégés?
Oui.
Moyen. Non. Peut être protégé par lui-même ou par un de ses frères ou de ses amis ou de je sais pas quoi.
Oui, ça va.
Comme toutes les phrases qui ont précédé, je choisis une affirmation avec laquelle je serais en difficulté moi-même si on me demandait de trancher, d'être d'accord ou pas d'accord. Parce que d'une part, je ne pense pas que les filles ont plus besoin d'être protégées, je ne pense pas qu'elles soient naturellement plus fragiles que les garçons, mais d'autre part, dans la société patriarcale, je vois qu'elles sont plus souvent exposées aux violences et qu'on leur apprend moins à se défendre. Et c'est ça que je veux interroger avec cette phrase. Je veux aussi montrer aux filles qu'en réalité, elles savent se défendre, je veux visibiliser et valoriser les stratégies d'autodéfense qu'elles ont déjà mises en place.
Comment on fait pour se protéger soi-même?
Par exemple, si le ballon vient sur notre tête, on se protège avec ses mains.
Ce qui est génial avec le débat mouvant et l'éduc pop, c'est qu'on part des préoccupations des participantes et participants. Et quand on a 7 ans, être protégé, c'est visiblement avant tout être protégé des ballons dans la cour de récré. Et je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, je la trouve passionnante, parce qu'elle amène la question du partage de l'espace dans la cour de récré. Ça raconte aussi que dans les faits, c'est pas toujours si facile de jouer ensemble, ou même de jouer côte à côte. Et ça m'a fait prendre le temps d'observer la cour de récré, de regarder comment se partage l'espace dans une cour de récré. Donc si vous travaillez avec des enfants, ou des ados même, je vous invite à regarder ces espaces. Ça a fait un écho assez fort au documentaire « Espace ». C'est un documentaire d'Éléonore Gilbert qui est disponible sur la plateforme Tank, d'ailleurs. Il met en scène une petite fille qui dessine sa cour de récré et qui dénonce, à sa manière, la ségrégation des loisirs et la marginalisation des femmes dans l'espace public.
Là, bon, bien sûr, il y a plein de petits endroits où on peut jouer. Mais si on les rassemble tous, ça fait un gros endroit, on peut se dire. Mais ils sont pas à côté. Et quand tu veux jouer à un gros truc comme les garçons avec leur foot, ça prend tout ça. Et puis je sais pas, nous on est obligés de prendre ça, c'est pas parce qu'on est des filles qu'on n'a pas le droit, quoi.
De repenser à tout ça et le fait que ce soit amené spontanément par les enfants, cette question du partage de l'espace dans la cour de récré, ça m'a donné envie de leur proposer une activité où elles dessinent leur cour de récré. Et pour élaborer cette activité, je me suis appuyée sur une vidéo qui était présente sur la plateforme Mathilda, une plateforme que je vous recommande d'ailleurs.
Vous allez sur ce dessin schématiser, dessiner votre cour de récréation que vous avez aujourd'hui en y mettant des espaces que vous repérez. Et je vais vous demander sur ce plan de d'écrire avec un M, M comme moi. Moi, M, ça c'est vous, de vous mettre sur la, dans cette cour de récréation, vous positionner là où vous êtes le plus souvent. Pendant une cour de récréation, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites, hein? Et avec qui vous êtes? Si vous êtes avec des filles, une fille, deux filles, trois filles, un garçon, un garçon, voilà, ce groupe, hein, si vous restez dans un groupe ou si vous allez voir, si vous allez de groupe en groupe, hein, vous essayez de m'expliquer ça dans la récréation. Donc ça, c'est la première consigne. Après, je vous donnerai l'autre consigne.
Là où il y a moi, souvent on va sous le préau avec mes copines.
Là, il y a le terrain de foot. Là, il y a le terrain de basket. Là, il y a le grillage à vélo avec la petite table et les petits bancs.
Je vais vous demander de dessiner sur votre dessin les endroits où, d'après vous, il y a le plus de garçons, où il y a beaucoup de garçons, et les endroits, attendez, où il y a, s'ils existent, beaucoup de filles ou le plus de filles. Avec, donc, toujours pareil, le petit G et le petit F.
Là, il y a un banc, en général, il y a des garçons et là, des filles.
Un terrain de basket où il y a plein de garçons. Un terrain de foot et des garçons. Et voilà.
Et les filles, elles sont où?
Elles sont là. Elles sont là aussi, ici sur les bancs.
Donc pendant la récréation, on va vous demander de confronter votre représentation de la cour avec la réalité du cours de récréation. Vous allez vous poster à un endroit et vous allez faire des observations qu'on va vous demander de faire par la suite. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que vous allez faire là, c'est, ça fait partie de mon travail. Hein, c'est-à-dire que moi, quand je travaille, mon métier, c'est de faire aussi des observations, des plans sur lesquels je note des choses et ensuite de pouvoir réfléchir tous ensemble à ce qu'on voit sur ce plan. Donc c'est un travail de géographe, voilà, de chercheur et de chercheuse en géographie sociale que vous allez faire. Donc là, on vient de passer 2 heures sur un collège avec une classe de 5e. Et le but de l'exercice ou le but du regard du géographe était de leur faire prendre conscience et de travailler avec eux leur espace de cours de récréation. Hein. Puisque quand on va en récréation, on a l'impression que naturellement, on va se mettre sur un espace. On va se mettre là parce qu'on a l'habitude d'y aller. On va se mettre avec ses copines à cet endroit parce que c'est l'endroit qui nous intéresse. Et en réalité, quand on commence à regarder, on voit aussi qu'on se met à ces endroits-là parce que les autres espaces nous sont interdits ou sont moins faciles d'accès pour nous. En général, les garçons ont l'espace central avec le terrain de football, le terrain de basket ou des jeux qui demandent de l'expression, c'est-à-dire de courir, de prendre de la place. Ils s'organisent entre eux dans des jeux comme ça. Et les filles, sans s'en rendre compte, vont se mettre sur les espaces qu'on leur laisse. Hein. Et on le voit bien quand on leur demande aussi de comment vous vous déplacez dans votre cour de récréation. Ben, elles vont venir à pratiquement pas traverser l'espace central, qui est pourtant le chemin le plus court, même pour aller aux toilettes ou même pour... Donc on les fait réfléchir. Évidemment, il y a des garçons qui ne jouent pas dans ces espaces-là, hein, mais ils y seront de toute façon plus légitimes qu'une fille. C'est-à-dire le jour où ils voudront y jouer, voilà, il faudra peut-être qu'ils négocient, mais ils pourront pénétrer ces espaces-là. D'ailleurs, il y a un garçon qui nous a bien expliqué que lui, il ne faisait jamais le tour, il traversait, même s'il ne jouait pas au football. Il pense qu'il a le droit, il s'autorise tout à fait à traverser l'espace central, alors que les filles savent d'emblée, je veux dire, depuis le départ, qu'elles devront faire le tour, quoi. Donc on travaille sur ça simplement pour montrer que ce qui est important dans la question du genre et là dans la question de l'égalité, hein, c'est aussi l'égalité dans l'espace, hein, c'est-à-dire comment on se partage l'espace. Si un groupe de 30 enfants prend
les deux tiers d'une récréation qui accueille 300 enfants, par exemple, bah, ça pose question pour savoir pourquoi les 270 autres auraient moins de place et moins d'espace et comment on peut faire pour partager cet espace et aussi peut-être pour jouer aux jeux auxquels on a envie, puisque dire c'est tout le temps ces jeux, c'est tout le temps ces garçons-là qui font ce jeu-là, c'est tout le temps les filles qui font ce jeu-là à cet endroit-là, ça nous montre aussi que peut-être on n'arrive pas à se mélanger, hein, et à, comment dire, à tester d'autres jeux ou d'autres manières de faire et d'être. Quoi.
Apprenons l'égalité. Apprenons l'égalité.
Mathilda.
Dessiner sa cour de récré réelle, sa cour de récré idéale, c'est une activité que j'ai donc proposée aux enfants de l'école des Oliviers pendant ce cycle d'ateliers. Et je pense qu'ils peuvent inspirer encore plein d'autres activités, ateliers, outils, comme par exemple le fait de mener des enquêtes conscientisantes en réfléchissant au nombre de représentations masculines et féminines qui sont dans les manuels scolaires, ou encore d'échanger et de recueillir des témoignages à travers d'autres débats mouvants ou même du théâtre forum. Ce sera peut-être la suite pour une prochaine édition d'Expression plurielle, en réfléchissant encore davantage à comment mettre l'outil radio à disposition des jeunes et des enfants pour qu'ils puissent se saisir de ces questions. Nothing to prove but bread, nothing to lose but sleep, nothing to do but less, nothing to want but peace, nothing to shoot but breeze, nothing to hold but tight, nothing to make but night, nothing to hate but life, nothing to want but more, nothing to take but time, nothing to prove.
Le soir avec mes cousines, je mettais des colliers de perles et des barésies los, paillettes dans la cuisine, parfum de rose ou violette, et des robes dentelles du rouge dans mon journal intime quand les parents partaient.
Merci à Antinéa de l'association Régalons-nous, merci à Maria du planning, merci à Francesca et à Jade de l'association La Fougue de m'avoir proposé d'observer et de participer à leurs ateliers. Et merci aussi à l'association Les Vives avec qui je participe à des ateliers d'auto-formation pour avoir inspiré ces pratiques et pour continuer de les questionner et de les construire ensemble. Merci au groupe DC1 CE2 de l'école des Oliviers d'avoir participé à ces ateliers et on entend parfois leur voix. Merci à Adem, Loan, Nathalie, Afsa et merci à Aya, Lia, Mohamed, Elisa et Liam pour avoir joué le jeu et pour tous les questionnements que vous avez amenés et qui vont se poursuivre. Concernant les extraits musicaux que vous entendez dans cette émission, au tout début, c'était le titre « Pas à vendre » de la rappeuse Kazé, précédé du morceau « Garçon » de Oscar Les Vacances qu'on retrouve à la fin de l'émission. Et enfin, l'artiste Kai Tempest et son titre « Nothing to prove ». C'était votre magazine hebdomadaire « Expression plurielle » à retrouver en podcast sur inforc.fr.
Expression plurielle. Une action soutenue par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ardèche, la commune d'Aubenas et la Caisse d'allocation familiale.